parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour, chers auditeurs. La parole du jour que je vous propose aujourd'hui, nous la prononçons chaque fois que nous allons communier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est cette traduction que l'Église a retenue de la formule latine que nous récitions avant le Concile. Domine nom sum dignus ut in tres subtectum meum sed tanduc dic verbo et sanebitur anima mea. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Comme vous le savez, cette phrase est extraite du texte de la guérison du serviteur du centurion romain, le toit dont il est question est sa maison. Saint Matthieu en parle dans son évangile au chapitre 8. Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va, à l'autre « vient » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. » Et Jésus dit au centurion « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est donc un centurion romain qui est à l'origine de cette courte prière. Un païen dont la foi suscite l'admiration du Christ. C'est cette foi qui est proposée aux fidèles comme modèle à travers sa parole. La phrase a subi quelques modifications pour être adaptée au sacrement de l'Eucharistie. Le toit, la demeure du centurion, devient le corps, l'âme et les fidèles sont à la fois l'officier et son serviteur, le malade et celui qui demande la guérison. Alors que Jésus effectue ses guérisons miraculeuses en présence du malade par l'imposition des mains ou par des paroles, le centurion croit qu'il a le pouvoir de guérir son serviteur sans même le voir. Connaître l'origine de cette phrase nous permet ainsi de méditer sur la capacité qu'a Jésus de guérir à distance spatiale pour l'officier romain et son serviteur à travers la parole du Seigneur pour les fidèles à travers l'Eucharistie. C'est bien cette guérison, malgré la distance, qui sépare les chrétiens de Jésus et malgré leur imperfection, qui doit faire l'objet de leur foi. Cette parole que nous prononçons parfois machinalement traduit notre humilité. Oui Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas dignes de recevoir en nous la présence sacrée du Seigneur. Mais devrait-on pour autant nous priver de cette nourriture que nous savons essentielle pour nous? Eh bien non, nous croyons que c'est possible, comme on vient de le voir dans l'évangile de Matthieu. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Oui Seigneur, dis une parole et je serai guéri et je peux m'approcher pour recevoir le corps du Christ. Qu'en est-il de la guérison des corps? Le centurion a osé solliciter Jésus comme nous, nous osons dans nos prières demander la guérison d'un proche. Nous avons peur parfois d'embêter le Seigneur avec ses sollicitations. Et pourtant, dans Luc au chapitre 11, Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. » Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, nous le constatons, des malades guérissent ou obtiennent des rémissions ou la grâce de supporter la maladie. Et pour bien sûr, cela tient du miracle. On le sait, l'Église est très prudente en matière de miracles reconnus officiellement. Chez nous à Lourdes, depuis 163 ans que la Vierge est apparue à Bernadette, sur plus de 7300 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis 1883 et considérés comme inexpliqués par le Bureau des constatations, 70 guérisons ont reçu le statut de guérison miraculeuse après un processus qui s'étale sur plusieurs années. Et pourtant, à Lourdes, on ne compte plus le nombre d'ex-voto qui ornent les murs des basiliques. Tous les saints reconnus, canonisés, ont fait des miracles. Et c'est même une condition pour accéder à la béatification, puis à la canonisation. Et je me suis souvent posé la question de cette obligation. La vie exemplaire de celui pour qui on postule pour le faire entrer dans la catégorie des saints ne suffit-elle pas? Pourquoi faut-il qu'il ait fait un ou plusieurs miracles? J'ai trouvé une explication intéressante auprès de Michel Di Roberto, sous-secrétaire de la Congrégation pour la cause des saints. Lors d'une interview, le journaliste demande « Quelles sont les procédures par lesquelles l'Église reconnaît un fait extraordinaire comme miracle ? Et pourquoi celui-ci est encore nécessaire dans les causes de béatification et de canonisation ? Pourquoi les miracles sont-ils nécessaires ? Ne peut-on déclarer la sainteté sur la base des preuves qui démontrent l'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu ? Et voici la réponse de Michel Di Roberto. Déclarer la sainteté d'une personne, ce n'est pas la même chose que d'attribuer une distinction honorifique ou un titre de chevalerie. Même si quelqu'un est au ciel, il se peut qu'il ne soit pas digne, comme il le semble, d'un culte public. L'établissement de l'héroïcité des vertus à travers le rassemblement des preuves issues des témoignages et documents, l'approfondissement historique et critique, l'évaluation théologique, la certitude morale et la formulation du jugement final, aussi fondé, sérieux et soigné soit-il, peut toujours être sujet à l'erreur. Nous pouvons toujours nous tromper, nous pouvons toujours être abusés, mais les miracles, seul Dieu peut les accomplir et Dieu ne trompe pas. Ils sont un don gratuit de Dieu, une marque très certaine de la révélation destinée à glorifier Dieu, à susciter et renforcer notre foi, et ils sont donc aussi une confirmation de la sainteté de la personne invoquée. Leur reconnaissance permet donc d'accorder, de façon sûre, l'autorisation du culte. En somme, les saints sont faits à travers les miracles et ces derniers sont, dans une cause de canonisation, le signe que Dieu sanctionne un jugement humain. Il est donc d'une importance capitale qu'il reste nécessaire dans la cause de canonisation. Comme les faits sont récents, je vous rappelle les deux miracles retenus pour la canonisation de Saint Jean-Paul II. Le premier miracle retenu est la guérison de Sœur Marie Simon-Pierre Normand, française, atteinte de la même maladie que lui, Parkinson. Diagnostiquée en 2001, elle a été guérie soudainement de son mal, 2 mois après la mort de Jean-Paul II, après une chaîne de prières de sa congrégation, les Petites Sœurs des Maternités catholiques demandant son intercession. Le deuxième miracle retenu pour la canonisation de Jean-Paul II est celui de Floribé Mora Diaz, originaire du Costa Rica, guérie inexplicablement d'un anévrisme au cerveau, quelques heures après sa béatification par Benoît XVI le 1er mai 2011, qu'elle suivit avec ferveur avec son mari. Les médecins ne lui avaient laissé aucun espoir et elle attendait chez elle une mort certaine, priant son pape bien-aimé qu'il intercède pour elle. Le lendemain matin, elle entendit une voix lui disant « Lève-toi, n'aie pas peur », raconte-t-elle. Elle affirme avoir vu une main sortir de la photo de Jean-Paul II sur une revue qui l'invitait à quitter son lit. Mais il peut se trouver que le miracle ne soit pas une guérison. pour la canonisation en 1996 de San Juan Grande, décédé en 1600, le postulateur de la cause soumit un fait miraculeux insolite. Une multiplication de riz en faveur des pauvres due à l'intercession du bienheureux. Ce genre de miracle, assurément rare, a cependant sa place légitime dans un procès de canonisation. Rappelons une exception dans ce processus. Les martyrs n'ont pas besoin d'avoir fait de miracle pour être béatifiés puis canonisés. Ce fut le cas des martyrs d'Algérie, béatifiés le 8 décembre 2018 à Oran, et ce sera le cas pour le père Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 en célébrant la messe, et dont les documents en vue de la béatification ont été déposés au Vatican le 10 avril 2019. Au revoir, chers auditeurs, et à demain.